Bonjour et bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran. Bienvenue surtout à Focus de cette semaine. On commence l'émission d'aujourd'hui par le sommet du G20 marqué par la première rencontre entre les présidents russes et américains. Le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump ont convenu d'un cessez-le-feu dans le sud-ouest de Syrie lors du sommet du G20, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. La trêve convenue lors des entretiens dans une atmosphère constructive débutera le dimanche 9 juillet à midi, a déclaré M. Lavrov. Aujourd'hui, dans la capitale jordanienne Amman, des experts russes, américains et jordaniens se sont mis d'accord sur un mémorandum sur la création d'une zone de désescalade dans la région de Dera, Kounatra et Soueïda, a-t-il indiqué. Il y a eu une alchimie positive entre le président américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine lors de leur premier tête-à-tête avant le sommet du G20, a déclaré le secrétaire d'État américain Rex Tillerson. La rencontre a été très constructive. La connexion entre les deux dirigeants s'est faite très rapidement, a-t-il déclaré. Il y a très clairement une alchimie positive entre deux, a dit Tillerson. La Russie, l'Iran, alliés de Damas, la Turquie, soutien des terroristes, ont adopté en mai le principe de la création de 4 zones sécurisées pour instaurer une trêve durable dans plusieurs régions, mais ils ne se sont pas encore entendus sur la façon dont elles seront administrées. Moscou estime que la zone de désescalade prévue dans le sud du pays ne peut être mise en place qu'avec l'accord des États-Unis et la Jordanie, pays frontalier de la Syrie. Évidemment, il y a le poids du Hezbollah, principal allié de l'armée syrienne dans le sud de la Syrie. Il faut voir si cet accord parvient également à tirer le feu vert du Hezbollah et de l'axe de la résistance. Mais ce n'est pas uniquement la Syrie dont on a parlé donc au sommet du G20, il y a également la question de la Corée du Nord. Bras de fer nucléaire, pendant que la réunion du G20, groupe des 20 puissances économiques mondiales, se tenait en Allemagne, en Corée du Nord, c'était la fête avec feux d'artifice et balles populaires pour avoir réussi le lancement de missiles balistiques intercontinentaux. Les deux événements n'ont certes pas de lien direct, mais leur juxtaposition fixe la priorité. L'intérêt d'un sommet sur la situation économique et financière du monde devient dérisoire face à une éventuelle menace nucléaire sur la planète. En effet, et après plusieurs essais, la Corée du Nord vient de réussir un tir de missile balistique intercontinental capable d'être équipé d'une tête nucléaire et atteindre les États-Unis, ce qui est extrêmement grave pour la sécurité américaine. Pour mieux comprendre, il faut savoir que sur les 9 pays détenteurs de l'arme nucléaire, 2 d'entre eux posent problème. C'est Israël qui détient clandestinement l'arme nucléaire. C'est aussi, et depuis 2006, la Corée du Nord. Pas pour le même motif, mais surtout pour s'être déclaré en état de guerre contre la Corée du Sud en 2013, suite à des manœuvres militaires de ce pays avec les Américains. S'estimant menacée, la Corée du Nord n'a eu de cesse de se doter d'une force de dissuasion capable d'éloigner la menace d'une invasion militaire américaine. Pyongyang a souvent rappelé le cas de l'Irak. Il faut savoir que 28 000 soldats américains sont stationnés en Corée du Sud. Depuis jeudi dernier donc, Pyongyang est capable d'atteindre le sol américain en cas d'agression. Ce qui explique la fête en Corée du Nord et la panique dans le monde occidental en général et aux États-Unis en particulier. Le président américain n'en sait plus comment réagir. Les sanctions économiques n'ont jusque-là produit aucun effet sur Pyongyang, tandis que l'option militaire risque de produire un effet proche de la fin du monde. En effet, la Corée du Nord ne ripostera pas uniquement par des tirs de ses missiles nucléaires sur les États-Unis, mais également sur Israël. La position pro-palestinienne de Pyongyang est connue de tous depuis toujours. Ses bonnes relations avec l'Iran et la Syrie également. Sauf que le ministre de la Défense israélien, Lieberman, a eu la très mauvaise idée en avril dernier de s'attaquer publiquement au programme nucléaire nord-coréen. Réponse immédiate des autorités nord-coréennes, Israël est le seul possesseur illégal d'armes nucléaires qui jouit du soutien des États-Unis, mais Israël attaque la Corée du Nord pour possession d'armes nucléaires ont-ils commencé par ironiser avant de conseiller Israël de réfléchir à deux fois sur les conséquences de sa campagne de dénigrement contre la Corée du Nord pour couvrir ses crimes contre l'humanité et son occupation illégale des territoires arabes au Moyen-Orient. Nous sommes en présence d'un changement radical dans les rapports de force à l'échelle mondiale, un changement aux effets à large spectre. Eh bien, on sort un peu du contexte du G20 pour aller directement en Europe et remarquer une chose, drapeau américain sur les trois mers de l'Europe. Eh bien, ce sera un triple pour le président Trump quand le 6 juillet, il arrivera en visite à Varsovie. La Pologne, assure la Maison-Blanche, est un fidèle allié OTAN et un des plus proches amis de l'Amérique. En effet, elle est le fer de lance de la stratégie américaine-otanienne qui a entraîné l'Europe dans une nouvelle guerre froide contre la Russie. En Pologne, où a été transférée en janvier la 3e brigade blindée américaine, est basée en fonction anti-russe, sous commandement états-unien, un des quatre groupes de bataille OTAN à présence avancée renforcée. La Pologne a aussi le mérite d'être un des quatre pays européens de l'OTAN qui ont réalisé l'objectif requis par les USA en 2014 de dépenser pour le militaire plus de 2% du PIB. En compensation, annonce Varsovie, la Pologne ne contribuera pas au fonds pour la défense lancé par l'Union européenne le 22 juin. La Pologne du président Duda a ainsi aux yeux de Washington tous les papiers en règle pour assumer une autre charge importante, celle de lancer et conduire l'initiative des trois mers, un nouveau projet qui réunit 12 pays compris en mer Baltique, mer Noire et Adriatique. Pologne, Lituanie, Lettonie, Estonie, Hongrie, Tchéquie, Autriche, Bulgarie, Roumanie, Croatie, Slovaquie, Slovénie. Tous membres de l'UE. Raison pourquoi le président Duda définit l'initiative comme un nouveau concept pour promouvoir l'unité européenne. Mais ces pays sont en même temps, tous sauf l'Autriche, membre de l'OTAN sous commandement USA, plus lié à Washington qu'à Bruxelles. L'initiative des trois mers sera portée sur les fonds baptismaux par le président Trump à la conférence qui se tiendra à Varsovie le 6 juillet, mais elle a été conçue par l'administration Obama. Elle a été annoncée le 25 août 2016 avec la déclaration conjointe de Dubrovnik qui l'a présentée comme une initiative visant à connecter les économies les infrastructures de l'Europe centrale et orientale du nord au sud en étendant la coopération dans le secteur de l'énergie, des transports, des communications digitales et en général de l'économie. Objectif officiel, rendre l'Europe centrale et orientale plus sûre et compétitive. Cela, les USA vont s'en occuper. Dans son discours à la conférence des trois mers, annonce la Maison-Blanche, le président Trump se concentrera sur le développement des infrastructures et sur la sécurité énergétique, en mettant en évidence notamment les premières expéditions de LNG, gaz naturel liquéfié, américain, à la Pologne, rapidement dans le mois qui vient. Un qui a coûté environ 1 milliard de dollars permettra à la Pologne d'importer du LNG états-unien pour une quantité de l'ordre de 5 milliards de mètres cubes annuels, expansible à 7,5. Pour ce terminal et quelques autres, dont un programme en Croatie, le gaz provenant des USA ou d'autres pays par l'intermédiaire de compagnies états-uniennes sera distribué par des gazoducs ad hoc à toute la région des Trois Mers. L'objectif du plan est clair, frapper la Russie en faisant tomber son export de gaz en Europe, objectif réalisable seulement si l'export de gaz USA plus cher que le russe est stimulée par de fortes subventions d'État, dit encore plus aux USA l'Europe centrale et orientale, non seulement militairement mais économiquement, dans une concurrence avec l'Allemagne et d'autres puissances européennes, crée à l'intérieur de l'Europe une macro-région, celle des Trois Mers, à souveraineté limitée, directement sous influence états-unienne, qui casserait de fait l'Union européenne et s'élargirait à l'Ukraine et au-delà. La carte politique de l'Europe est sur le point de changer, mais la bannière étoilée y reste plantée. Et on va finir notre mission d'aujourd'hui par un petit rappel d'un sondage. Selon les résultats du sondage Ipsos pour le Monde, les Français jugent majoritairement que les étrangers sont trop nombreux et que l'islam est incompatible avec les valeurs françaises. Les représentants des fédérations musulmanes de France ont exprimé ce week-end leur préoccupation quant au regard négatif que certains Français portent sur la religion musulmane, réagissant à la dernière enquête annuelle d'Ipsos en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès et Le Monde, publiée lundi dernier. Les représentants des fédérations musulmanes de France, réunis à la Grande Mosquée de Paris, demandent instamment à tous les musulmans de France de participer activement à des actions tendant à mieux faire connaître les valeurs fondamentales de l'islam, qui ne sont en rien contraires aux lois de la République. Selon les résultats du sondage Ipsos pour Le Monde, les Français jugent majoritairement que les étrangers sont trop nombreux, que l'islam est incompatible avec les valeurs françaises. Seuls 40% des personnes interrogées ont estimé que la religion musulmane est compatible avec les valeurs de la société française et 74% jugent que l'islam cherche à imposer son mode de fonctionnement aux autres. 46% des sondés pensent que l'islam porte malgré tout en lui des germes de violence et d'intolérance. À cet effet, les représentants des fédérations musulmanes de France, Talil Boubacar, président de la Fédération nationale de la Grande Mosquée de Paris, Amar Lasfar, président des musulmans de France ex-UOIF, et Abdellah Zekri, président de l'Observatoire national contre l'islamophobie, signataire du communiqué, réfutent tout lien entre l'islam et le terrorisme.